Il est tout pile 22h sur Europe 1. Belle soirée à tous. Tout de suite, le journal du soir avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Face à la polémique, Édouard Philippe apporte son soutien à son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a fait son mea culpa aujourd'hui. Il n'aurait pas dû parler d'attaque, mais d'intrusion violente après les incidents de mercredi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'opposition réclame son audition et la création d'une commission d'enquête. Certains veulent même sa tête. On est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes et on surveille tout particulièrement demain la ville de Metz qui accueille le G7 de l'environnement et où des haltères ont prévu de jouer les troubles fêtes. Les européennes, il devrait y avoir une vingtaine de listes. Les candidats avaient jusqu'à ce soir pour se faire connaître. Certains ont eu beaucoup de mal à trouver un financement. L'un des plus importants gangs de France en matière de narco-banditisme démantelé dans la région de Marseille. 40 enquêteurs ont été mobilisés pendant 10 mois. Quand Nicolas Sarkozy fait son show à Versailles, l'ancien président en grande forme, on l'entendra. Eux sont plutôt en petite forme hein, ces derniers temps. Les footballeurs de l'OM qui jouent en ce moment sous vos yeux à Strasbourg, Patrick Muller.
Effectivement, c'est la 57e minute et Marseille mène 1-0 sur la pelouse de Strasbourg. Le but est signé Valère Germain à la 47e.
Patrick Muller au stade de la Méno pour Europe 1 que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal. Du côté du PSG, 3 matchs de suspension pour Mbappé et une enquête ouverte contre Neymar. Côté météo, la journée de demain sera pluvieuse, venteuse et fraîche. À noter même le retour de la neige à basse altitude des 400 mètres sur les Vosges, 600 mètres sur le Jura. Les températures vont chuter. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage.
Europe 1.
Édouard Philippe, à la rescousse donc pour sauver le soldat Castaner, le ministre de l'Intérieur, très critiqué pour avoir parlé d'attaque après l'intrusion mercredi au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en marge du cortège du 1er mai. Ce matin, pourtant, il a corrigé le tir.
J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Mais entrer de force dans un hôpital, par l'entrée principale ou par l'entrée annexe, en brisant les chaînes du portail, tenter de s'introduire dans les services interdits d'accès au public parce qu'on y soigne et protège des vies humaines, ce sont des actes inadmissibles et des actes très graves. L'enquête judiciaire déterminera précisément les faits et les responsabilités.
Christophe Castaner qui fait donc son mea culpa et dans la foulée, Édouard Philippe qui vole au secours de son ministre. Il faut dire que depuis 48 heures, des vidéos et des témoignages contredisaient cette version du gouvernement.
S'agissant des polémiques qui ont agité le monde médiatico-politique pendant les 24 dernières heures, je crois savoir que le ministre de l'Intérieur a corrigé son propos. Il a sans doute eu raison de le faire en choisissant le terme qu'il a utilisé et je n'ai pas d'autre commentaire à faire, sinon qu'il a évidemment... Et comme depuis le début, toute ma confiance.
Sa crédibilité.
Merci beaucoup.
Édouard Philippe qui soutient donc son ministre de l'Intérieur alors que l'opposition s'engouffre dans la brèche. Certains élus demandent une commission d'enquête. D'autres réclament l'audition de Christophe Castaner devant le Parlement. D'autres encore réclament carrément la tête du ministre de l'Intérieur. Vous en dites quoi, Mickaël Darmon, vous qui êtes éditorialiste à Europe 1 ?
C'est intéressant parce que c'est métabloquant. Hein. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen pour que ça n'arrive pas. Vous imaginez le président de la République qui dit bah oui, bah donc Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon demandent la démission de Castaner, dont je vais bien entendu leur donner et accéder à leur demande. Donc évidemment non. En revanche, ça contribue à alimenter le dossier en interne parce qu'il y a également, je peux vous dire, des membres du gouvernement qui s'empressent depuis déjà quelques temps de demander donc, au président de la République, qui est une vaste réorganisation gouvernementale, et dans le cadre de ce remaniement, eh bien que Christophe Castaner change de poste.
L'analyse de Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier. Par ailleurs, toute autre affaire, une enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices, après la diffusion d'une vidéo sur laquelle on voit clairement un CRS mercredi dernier à Paris, en train de jeter un pavé vers des manifestants. On ne sait pas si quelqu'un a été blessé par ce pavé. Demain, samedi, nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes et nouvelle crainte de débordement à Paris, bien sûr, mais aussi aussi à Metz. Metz où se tient à partir de dimanche le G7 des ministres de l'environnement. L'objectif, c'est d'aboutir à de nouveaux engagements environnementaux, en particulier sur la préservation de la biodiversité. En tout cas, cette journée de demain, Arthur Hennebaché sera sous très haute surveillance.
Alors j'allais dire comme tous les week-ends depuis bientôt 6 mois, puisque les Gilets jaunes de France et de Navarre sont censés se retrouver. Donc ce coup-ci ici à Metz demain, mais il y a aussi ce G7 et ce contre-G7, alter-G7, des associations pacifistes qui l'organisent et qui craignent la venue de casseurs. On n'est pas loin de Bure ici, vous savez, le centre d'enfouissement de déchets nucléaires et de ses opposants, dont certains d'entre eux sont au minimum, on va dire, vigoureux. On est aussi tout près du Luxembourg et de l'Allemagne. On n'est pas complètement idiot, dit Lorraine du mouvement ATTAC. On sait très bien qu'il peut y avoir des black blocs et des débordements.
Alors s'il y a des casseurs, c'est le problème de la police. Nous, on est un collectif où on prône la non-violence. Moi, je ne vais pas m'interposer devant un casseur. Vous voyez, je fais 1m64. Pour moi, c'est le but clairement du gouvernement de faire peur aux gens pour que les gens ne manifestent plus et n'osent plus s'exprimer. Il y a des gens qui vont la peur au ventre maintenant manifester. Et ça, je trouve ça dramatique parce qu'on a plein de choses à dire et que ça pourrait être constructif. Et en l'occurrence, c'est pas normal d'avoir peur, de se dire qu'on va perdre un membre alors qu'on va juste manifester, quoi.
Côté syndicat, je viens de parler avec un représentant de la CGT ici en Moselle qui n'exclut pas, si ça tourne mal, de quitter la manifestation, comme Philippe Martinez mercredi à Paris.
Merci Arthur Hennebaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. On savait que Carrefour devait réduire la voilure. Eh bien, on a ce soir un chiffre. Jusqu'à 3000 départs dans ces hypermarchés dans le cadre du projet d'accord de rupture conventionnelle collective. Ce chiffre plafond annoncé au syndicat aujourd'hui comprend des suppressions de postes, notamment dans les rayons bijouterie, multimédia et dans l'encadrement. On évoquait il y a un instant Christophe Castaner qui a fait son mea culpa. Il l'a fait à Marseille où il était en déplacement avec Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur, pour féliciter les forces de l'ordre qui sont à l'origine du démantèlement de l'un des gangs les plus importants de France en matière de narco-banditisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Nathalie Chevance ?
Eh bien, c'est une bande de malfaiteurs extrêmement dangereux, le plus souvent armés en permanence, qui vient d'être neutralisée. Moyenne d'âge 25-30 ans, ils sont très jeunes. La plupart sont déjà connus et les enquêteurs les soupçonnent d'être à l'origine de la grande majorité des règlements de compte de ces dernières années. 23 morts l'an passé dans les Bouches-du-Rhône. Un gang très violent. Pour preuve, la centaine de policiers mobilisés sur cette affaire ont découvert dans plusieurs boxes de voitures des armes, dont des kalachnikovs, un véritable arsenal, au service d'une guerre de territoire pour le trafic de stupes, avec en ligne de mire différentes cités comme la Busserine, la Bricarde, où des tirs d'armes automatiques ont encore résonné en plein jour il y a quelques semaines. Des points de deal qui peuvent rapporter jusqu'à 50 000 euros par jour aux équipes de malfaiteurs qui n'hésitent donc pas pour les contrôler à s'entretuer. Au total, 11 hommes ont été interpellés lundi. 7 sont actuellement présentés à un juge d'instruction pour association de malfaiteurs en bande organisée. Leur placement en détention devrait porter un coup à ce gang, la bande dite de Marignane, qui communiquait uniquement par téléphone crypté. Les enquêteurs la traquaient depuis près d'un an, l'une des équipes majeures du narco-banditisme marseillais de ces dernières années.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Ils étaient cagoulés, lourdement armés et visiblement très bien renseignés. Entre 5 et 7 malfaiteurs ont fait main basse tôt ce matin sur 20 kilos d'or ainsi que sur une quantité indéterminée de platine. Ça s'est passé à Châtillon-le-Duc dans le Doubs, dans une entreprise de traitement de métaux précieux qui travaille avec les plus grands joailliers parisiens.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et c'est terminé. Les candidats qui souhaitaient déposer leur liste pour les élections européennes avaient jusqu'à 18h ce soir pour le faire. On aura le nombre définitif un peu plus tard. En tout cas, parmi les inconnus, le nombre de listes étiquetées gilets jaunes qui ont eu d'ailleurs du mal à se constituer, hein, en particulier en raison des financements, Aurélien Fleurot.
Oui, et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins deux listes, hein, qui seront des émanations directes des Gilets jaunes. Évolution citoyenne, présentée par Christophe Chalençon, figure du mouvement dans le Vaucluse. Il explique, lui, avoir rejeté des financements et va demander aux citoyens d'imprimer eux-mêmes les bulletins de vote pour sa liste. Et puis, vous avez une stratégie totalement opposée pour la deuxième liste déjà déposée, Alliance Jaune, avec Francis Lalanne en tête de liste. Le chanteur, lui, eh bien, il pourra faire une campagne visible aux côtés de Gilets jaunes grâce à la caution bancaire apportée par son ami, l'ancien chef d'entreprise Jean-Marc Governatori, 800 000 euros pour l'impression de plusieurs millions de bulletins de vote, de professions de foi et d'environ 100 000 affiches pour donc s'assurer de la visibilité. Mais tout le monde n'a pas trouvé cet argent. Le NPA ou Jean Lassalle, par exemple, ont été contraints de renoncer. Alors il devrait y avoir 25-30 listes avec bien sûr les partis politiques habituels, de Lutte ouvrière jusqu'au Rassemblement national. Et puis plusieurs petites listes essayaient encore ces dernières heures de tout faire pour être présentes, comme celle du parti pirate, du parti animaliste ou encore Cannabis sans frontières.
Aurélien Fleureau, la campagne commencera officiellement dans 10 jours, le 13 mai. Et selon un dernier sondage BVA Orange pour Europe 1, l'écart entre La République En Marche et le Rassemblement National se réduit. LREM recueillerait 22% des voix contre 21% pour le parti de Marine Le Pen. Lui a officiellement quitté la politique depuis un certain temps déjà. C'est ce qu'on croyait en tout cas. Nicolas Sarkozy, désormais reconverti dans le privé. Il était aujourd'hui à la Biennale d'architecture d'Île-de-France et il a assuré le spectacle, Jean-Rémy Baudeau.
Oui Isabelle, un Nicolas Sarkozy très en forme devant un public acquis qui enchaîne les traits d'humour. 30 minutes de discours improvisé où il prend à partie le public. Il s'amuse par exemple d'une femme au deuxième rang qui rit de ses blagues. On s'est cru dans un one-man show politique. Car oui, c'était bien de la politique. Et l'une des cibles de Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande. Sans jamais le citer, il lui a taillé quelques costards, notamment sur le Grand Paris, projet lancé justement par Nicolas Sarkozy.
Pour vous dire la force du Grand Paris, même mon successeur n'a pas réussi à le démolir. Non mais il n'a rien fait. Bon ça c'est déjà pas mal parce qu'il aurait pu... Il y a d'autres secteurs, c'est pas contenté de rien faire. Mais malgré ça... Le Grand Paris a survécu.
Voilà, c'est grinçant, c'est efficace. Nicolas Sarkozy qui en profite pour saluer au passage Emmanuel Macron qui, selon lui, poursuit les dossiers importants. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Nicolas Sarkozy tacle une nouvelle fois François Hollande.
J'ai voulu la Philharmonie. Je l'ai tellement voulu d'ailleurs que mon aimable successeur, qui inaugurait en 2012 la Philharmonie, ne m'a pas invité à l'inauguration. Ça, j'ai pas... Au moins, j'ai dérangé personne.
La salle s'est régalée, tout le monde a bien ri, sauf que rappelons que la Philharmonie est un projet qui est né au début des années 2000, à l'époque de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy n'a fait que poser la première pierre. Enfin, dans son emballement à faire rire la salle, l'ancien président a appelé plusieurs fois à dépenser l'argent public dans de grands projets comme le Grand Paris, même quand il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Être dépensier, c'est peut-être à cela que l'on reconnaît justement un président qui n'est plus aux responsabilités.
Et voilà, Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Merci Jean-Rémy. Deux touristes français et leur guide sont portés disparus au Bénin. Ils étaient en vacances dans le parc national de la Pendjari, c'est dans le nord du pays. Et ils n'ont pas regagné leur hôtel mercredi soir. Néanmoins, à ce stade, toute personne ne parle d'enlèvement. Ça n'était pas arrivé. Depuis 1969 aux États-Unis, le taux de chômage est tombé à 3,9% au mois d'avril. Les créations d'emplois ont largement dépassé les prévisions des analystes. De très nombreux Algériens ont de nouveau manifesté aujourd'hui à Alger pour un 11e vendredi consécutif, le dernier avant le début du mois de jeûne du Ramadan, durant lequel ils entendent néanmoins continuer de protester pour démentir les craintes d'essoufflement du mouvement. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle à manifester demain devant toutes les bases militaires du pays, dans le calme, pacifiquement, pour demander à l'armée de lâcher le président Nicolas Maduro, de ne plus le soutenir. L'armée qui, vous le savez, est un acteur central dans le pays et qui, jusqu'à présent, affiche un soutien sans faille au président socialiste.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et le foot, et on va repartir tout de suite à Strasbourg rejoindre Patrick Muller puisque l'Olympique de Marseille joue en ce moment au stade de la Méno. Patrick, tout à l'heure vous nous disiez que Marseille dominait mais Strasbourg s'est repris semble-t-il.
Hein. Ah, effectivement, je vous le confirme, un partout désormais au tableau d'affichage avec cette égalisation strasbourgeoise survenue tout à l'heure à la 64e minute. Une égalisation, j'ai envie de dire, en trois temps, un pénalty concédé par Adil Rami face à Ajorque. Martin s'élance pour le frapper. C'est repoussé par Mandanda, deuxième tentative de Thomasson et finalement qui est là pour marquer ce but, et bien c'est Kenny Lala, cinquième réalisation cette saison pour le latéral droit strasbourgeois. Et les Marseillais qui avaient ouvert la marque après une première période insipide, qui avait plutôt bien démarré la seconde période, un bon premier quart d'heure. Ils avaient été récompensés donc par cette ouverture du score de Valère Germain, belle frappe enveloppée, et puis ils ont un petit peu perdu le fil, les Olympiens, et Strasbourg en a profité. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle au classement. évidemment, puisque Marseille devait impérativement s'imposer ce soir pour conserver des chances de qualification européenne. Or, les Marseillais, en l'état en tout cas, ne comptent toujours 4 longueurs de retard sur Saint-Etienne, qui jouera dimanche face à Monaco. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre, et donc le score est de 1 partout entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille.
Et tout est encore possible en 20 minutes. Merci beaucoup Patrick Muller en direct de Strasbourg. Du côté du PSG maintenant, la commission de discipline a décidé de sanctionner Kylian Mbappé, Julien Froment.
Oui, 3 matchs fermes pour Kylian Mbappé. On le rappelle, auteur d'un tacle très dangereux en finale de la Coupe de France contre le Rennais Damien Da Silva. Il a déjà purgé un match, celui de Montpellier mardi dernier. Il manquera Nice demain et Angers la semaine prochaine. Le Parisien s'en sort bien, ce n'est pas la première fois. Il a déjà pris 2 cartons rouges dans sa jeune carrière pour des gestes d'humeur. Quant à Neymar, eh bien, il va falloir patienter. Le dossier a été mis en instruction par la commission de discipline de la Fédération. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, une certitude, Neymar sera sanctionné. C'est ce que m'a confirmé un fin connaisseur des instance fédérale. Il ne voit pas comment la fédération peut fermer les yeux après la gifle donnée aux supporters rennais au moment de récupérer sa médaille de finaliste. En revanche, l'instruction va permettre à Neymar, au Paris Saint-Germain, de préparer la défense, de présenter des arguments. Et dans ce cas précis, eh bien, la provocation, hein, le supporter qui a insulté tous les joueurs parisiens, peut être un facteur déterminant au moment de la sanction. Neymar risquerait, selon les textes, entre 3 et 6 matchs. Verdict la semaine prochaine. En tout cas, demain, c'est peut-être le dernier match de la saison pour le Brésilien avec le Paris Saint-Germain.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Notez que Metz, déjà assuré de retrouver l'élite, a été sacré ce soir champion de Ligue 2 après sa victoire 3-0 devant Valenciennes. Le Red Star, lui, évoluera en National la saison prochaine. Et puis en cyclisme, le champion du monde renonce au Tour d'Italie. Alejandro Valverde, qui n'a toujours pas récupéré d'une chute à l'entraînement, déclare forfait pour le Giro. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Pour demain, Valérie, temps très maussade et très agité, sauf en Méditerranée.
Tout à fait Isabelle, très instable. Déjà le matin, là où le ciel sera le plus pluvieux et le plus changeant, c'est au nord de la Seine, il fera frais. Le vent de nord-est sera soutenu avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h, les giboulées fréquentes, parfois orageuses et accompagnées de grésils. Ce temps agité concernera ensuite progressivement toute la moitié nord de la France en perdant de l'activité au fil des heures. Et les averses devraient cesser assez rapidement l'après-midi sur le nord-ouest et notamment sur le littoral de la Manche. Au sud, avant l'arrivée de la perturbation, c'est très très nuageux et plus sec aussi. Hein. Et sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera laiteux. Tramontane et Mistral soufflent fort. Les rafales atteindront 100 km/h. Les températures sont en baisse sensible avec le retour des gelées le matin. Il fera entre 2 à Lons-le-Saunier et 12 degrés à Toulon pour les minimales et pour les maximales, pas bien hautes non plus, entre 9 à Nancy et 21 à Nîmes.
La météo signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jean-Pierre Masse. Il est le président des entreprises du voyage. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et les indices américains qui terminent la semaine sur une note positive à Wall Street et même sur un record.
Oui, les marchés repartent de l'avant après de bonnes nouvelles pour l'emploi. Le Dow Jones reprend 0,75%, 26 504 points. Le Nasdaq signe donc un nouveau record historique, plus 1,58%, 8 164 points. C'est grâce notamment au chômage qui a baissé beaucoup plus que prévu aux États-Unis en avril. Il est tombé à 3,6% et c'est un plus bas depuis près de 50 ans. Alors ça dope les valeurs et notamment les technologiques. Le poids lourd Microsoft bondit de 2,1%, Apple plus 1,2%. Ça monte même de 3,2% pour Amazon. Le fonds du célèbre investisseur Warren Buffett est entré au capital du groupe de e-commerce. Warren Buffett qui se dit fan du géant créé par Jeff Bezos et qui regrette même de ne pas avoir investi plus tôt. Alors évidemment, ça provoque l'enthousiasme des investisseurs. Tesla gagne encore 4,5%. Le fabricant de voitures électriques revoit en hausse la levée de fonds annoncée hier à 2,7 milliards de dollars. Là aussi, c'est un record pour Tesla. Le pétrole est en petite hausse, plus 0,2%. On est proche des 62 dollars le baril WTI. Et puis l'euro est en hausse également, plus 0,2%. Il s'échange contre 1,1195 $.
Et la semaine, Claire, se termine par par une petite hausse pour le marché parisien.
Petite hausse de 0,18% pour le CAC qui n'a pas trop réagi lui aux chiffres du chômage aux États-Unis. Il termine à 5 549 points. L'assureur AXA monte de près de 2% après ses résultats trimestriels. C'est du vert aussi pour Société Générale, boosté par une publication rassurante, principalement au niveau du bilan, plus 1,1% pour la banque. Et puis Iliad avance de 1,5%. Les analystes de Morgan Stanley croient au potentiel de l'opérateur télécom et ont donc relevé leur objectif de cours.
En revanche, l'action Air France KLM pique du nez.
Oui. Le titre finit la semaine dans le rouge vif, moins 5,5% dans le sillage des comptes du premier trimestre. Le transporteur a été pénalisé par la hausse des prix du kérosène. Et puis selon le site économique La Tribune, Air France devrait annoncer en mai, le 13 mai, un plan de départ volontaire pour le personnel au sol. Un plan qui concernerait près de 400 personnes. La semaine se termine dans le désordre pour les marchés européens. Londres gagne 0,4%, Francfort plus 0,5%, Milan plus 0,2. C'est du rouge en revanche pour Madrid et pour Amsterdam qui perdent 0,1%. Et le CAC 40 gagne 0,2% et clôture à 5 549 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le président des entreprises du voyage.
Bonsoir Jean-Pierre Masse.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête des entreprises du voyage. Alors malheureusement, il paraît que c'est la fin cette fois des vacances. Et il restait encore notamment les Parisiens en vacances, mais c'est la fin de ces vacances de Pâques. Question toute bête pour commencer Jean-Pierre. Mais ça s'est bien passé? Il y a eu du monde lors de ces vacances de Pâques?
Elles se sont plutôt bien passées. Elles sont au niveau des vacances de Pâques de l'an dernier. Elles se sont mieux passées que s'est passé le premier trimestre, pour répondre simplement. Le premier trimestre a été plutôt en baisse pour les départs à l'étranger, alors qu'il a été en hausse pour les départs en France. Et les vacances de Pâques sont au niveau exact ou à peu près au niveau de celles de l'an dernier.
On sait un petit peu où les chanceux sont partis en vacances?
En France, beaucoup. Hein, et puis ensuite dans le bassin méditerranéen. Et en revanche, les Français qui ont des budgets plus importants, qui disposent de plus de moyens pour voyager, sont un petit peu moins partis pour les destinations long courrier qu'ils n'étaient partis l'an dernier.
Alors, ces vacances de Pâques ont été marquées par un drame au Sri Lanka. C'était à l'occasion du week-end de Pâques, justement. Qu'en est-il de la situation? Puisqu'on sait que les autorités françaises ont conseillé de ne pas aller au Sri Lanka. Qu'en est-il de la situation maintenant, Jean-Pierre Masse?
Je pense qu'aujourd'hui, les touristes français qui étaient au Sri Lanka ont terminé leur séjour ou ont été rapatriés. La plupart ont choisi de terminer leur séjour, d'ailleurs.
Oui, vous avez été étonné du fait que les Français et les touristes français souhaitent rester et finir leur voyage malgré le drame qui avait touché le pays?
Ça ne m'a pas beaucoup surpris. Parce que quand on est au Sri Lanka, on a des relations très fortes et très affectives avec la population. C'est un pays dans lequel on se sent bien, dans lequel les relations sont faciles. Et donc, je pense qu'il y a eu une forme de solidarité et de prudence en même temps. Hein. Peut-être aussi la prudence de ne pas aller dans les aéroports, puisque les attentats se produisent dans des lieux touristiques et l'aéroport peut être visé. Donc, ça ne m'a pas surpris que les gens soient restés, que les touristes français soient restés. En revanche, maintenant, les Français ne partent plus au Sri Lanka. C'est déconseillé, hein, il n'y a pas de problème. Et il va falloir attendre un certain temps avant que ça redémarre.
Oui, ce genre de destination, ça met souvent beaucoup de temps à repartir après des drames aussi importants. Alors malgré tout, nous, si on se concentre sur les vacances peut-être à venir, il y a déjà les ponts du mois de mai, même si ce n'est pas vraiment une année à pont, vu que ça va tomber un mercredi comme on l'a vécu là pour le 1er mai, et quand même avoir le week-end de l'Ascension, et puis plus largement cet été. Comment ça se présente?
Alors, pour les ponts du mois de mai, ça se présente comme d'habitude, c'est-à-dire cette année, on va avoir un vrai pont qui est celui de l'Ascension et puis un week-end prolongé qui sera celui de Pentecôte. Ça se présente à peu près normalement. En revanche, l'été se présente très très bien. On a mesuré les intentions de départ en vacances des Français. Elles sont en très forte hausse, elles sont dans une hausse même qui paraît anormale. Attention, là, il ne s'agit que d'intentions et non pas de concrétisation. Elles sont à plus 8%. Mais quand on regarde les réservations pour cet été, le niveau des réservations pour cet été, il est également en très forte hausse. C'est-à-dire qu'il y a 9%, il y a une anticipation des Français sur leurs intentions de vacances d'été, sur leurs réservations de vacances d'été.
Comment ça s'explique?
je crois que le climat politique et économique un petit peu tendu, un petit peu incertain en France donne probablement envie d'aller prendre de l'oxygène. C'est certainement ça.
Est-ce que ça vient aussi du fait que l'année dernière, le début de saison avait été compliqué, puisque Coupe du Monde de football, donc un début juillet qui avait été amputé absolument par le fait que nous étions restés devant nos postes de télévision pour soutenir notre équipe de France. Est-ce que ça explique que cette année, du coup, allez, il n'y a pas de Coupe du Monde, donc on part en vacances?
Vous avez totalement raison, puisqu'on mesure les progressions par rapport à l'année précédente. Et l'année précédente, le mois de juillet avait été très mauvais pour la raison que vous venez d'expliquer de la Coupe du Monde. Donc, il est normal qu'on retrouve... Mais on va retrouver tout de même un niveau très supérieur il y a deux ans. Donc, on est quand même à une progression des intentions de départ en vacances et des réservations de vacances pour l'été, et avec des destinations qui tirent très bien leur épingle du jeu.
Quelles sont justement, Jean-Pierre Masse, ces destinations?
Il y a un retour. Alors, c'est les classiques. L'été, c'est vraiment très classique. En moyen courrier, c'est l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Mais on assiste derrière à un retour très fort de la Tunisie qui continue sa progression autour de 70%, de même que la Turquie et l'Égypte, qui sont dans les mêmes... Donc, des destinations qui étaient boudées, conséquences du printemps arabe, conséquences des attentats, et qui retrouvent aujourd'hui un niveau quasi normal de réservation. Et à long courrier, on a là aussi également des classiques, USA, Canada, la République dominicaine et l'île Maurice. En revanche, l'Asie est en régression. Il y a moins d'intentions de départ en vacances en Asie.
Est-ce qu'il y a des destinations qui montent, même si ce n'est pas encore le gros des touristes? Il y a quelques années, on avait entendu par exemple l'Albanie qui commençait à plutôt bien fonctionner autour de chez nous. Il y a aussi d'autres pays qui commencent peut-être un petit peu plus loin à bien fonctionner. Quels sont-ils?
Alors, on ne peut pas parler de destinations qui émergent, de destinations nouvelles. Vous avez totalement raison en évoquant l'Albanie, mais l'Albanie est encore aujourd'hui une destination touristique très confidentielle. Très, très confidentielle. Il y a un tour opérateur et un seul qui commence à programmer des séjours en Albanie. Il y a la Russie, qui est une destination qui est en forte progression, qui n'est pas nouvelle, on n'invente rien, hein, mais qui est en anormale progression par rapport à ses voisins. Et puis après, il y a des destinations plus lointaines, comme le Japon, qui s'adressent à des populations qui ont des revenus élevés.
On entend de plus en plus des mouvements dire on ne veut plus prendre l'avion pour aller en vacances parce qu'on ne veut plus polluer, donc on va notamment prendre le train, le vélo ou autre. C'est un mouvement qui vous fait peur ou vous pensez que c'est totalement anecdotique?
Non, c'est très sérieux. À titre personnel, je suis vraiment très sensibilisé à ces questions-là. Je pense qu'il faut prendre les devants et il faut que le transport aérien compense ou absorbe le CO2 qu'il produit. Si les compagnies aériennes n'assument pas cette responsabilité, d'abord elles seront pénalisées par le boycott du transport aérien. Et elles seront ensuite pénalisées par les États qui décideront de taxer ce qui n'ira pas nécessairement à une contribution carbone. Il faudrait qu'il y ait un mouvement volontaire des compagnies aériennes pour compenser, absorber la production de CO2 à l'origine.
Et vous les sentez prêtes à faire ça?
Non, pas du tout. Elles appliquent la politique de l'autruche, la tête dans le sable. Et on verra bien ce qui va nous tomber sur le dos. Elles ne bougent pas, mais ce mouvement-là, comme celui du surtourisme, un petit peu la réaction qu'il y a eu à la surfréquentation de certains lieux touristiques, peuvent mettre en danger une économie globale du tourisme, non seulement en France, mais dans le monde.
Eh bien, ce sera l'occasion de vous réinviter. Un grand merci à Jean-Pierre Masse. Je rappelle que vous êtes à la tête des entreprises du voyage. Vous rassemblez notamment les agences du voyage. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Très bon week-end à vous et à vous tous. On se retrouve lundi, 22h20, toujours sur Europe 1.
On vous dit à lundi, bien sûr. Merci Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Envoyez vos lettres recommandées en ligne. Elles ont la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et tout de suite, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Voici ce que vous découvrirez demain dans vos kiosques. Castaner empêtré dans la pitié, titre le journal Libération, qui revient sur la fameuse polémique dont on parlait tout à l'heure dans le journal. Le ministre qui tweete plus vite que son ombre, écrit Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre. La vie place Beauvau n'est pas un long fleuve tranquille pour l'ancien maire de Fort-Calquier. Tête de turc des médias, bête noire des manifestants, ses tweets et ses déclarations légendaires
font le miel du grand cirque qui nous entoure. Sa dernière sortie sur l'attaque de la Pitié-Salpêtrière, qui n'en était pas une, est assurément le clou du spectacle. Asie, Afrique, Europe, la nouvelle stratégie de Daesh, c'est à la une du Figaro. Après la chute du califat à Barouz, son dernier bastion au Levant, l'État islamique alimente le djihad global en s'appuyant sur ses succursales implantées à travers la planète. Dans le journal Les Échos, Henri Gibier revient quant à lui sur le taux de chômage aux États-Unis. 3,6%, c'est le taux le plus bas depuis un demi-siècle. Richard Nixon venait alors d'entrer à la Maison-Blanche. La guerre du Vietnam battait son plein, une autre époque. Pour Donald Trump, qui avait choisi pour slogan de campagne « Make America Great Again », c'est une excellente nouvelle qui le conforte sur le plan économique. Et voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. On va faire tout de suite un nouveau détour rapide par Strasbourg avec vous Patrick Muller. Le foot, la Ligue 1, Strasbourg-Marseille, toujours un partout ?
Effectivement, un partout entre ces deux équipes alors qu'il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. C'est Germain, le Marseillais, qui avait ouvert la marque à la 47e. L'égalisation de Lala à la 64e et ça ne fait évidemment pas les affaires de Marseille en vue d'une éventuelle qualification européenne. Il compte 4 points de retard sur Saint-Etienne, le 4e, les Marseillais.
C'est pas bon du tout pour l'OM. Merci beaucoup Patrick Muller. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h30 et vous avez le plaisir de retrouver Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle, quel bonheur de vous retrouver.
Pareil.
Et dans une demi-heure, vous revenez pour un nouveau
point. À tout à l'heure Sabine.
À tout à l'heure.